Chapitre 2. L'œuvre de Dieu pour l'accomplissement de son propos. Le chapitre 1 a placé devant nous les conseils de Dieu pour Christ et l'Assemblée. Il se termine par la prière de l'apôtre, que nous connaissions la puissance envers nous par laquelle ces conseils d'amour seront accomplis. Dans le chapitre 2, il nous est accordé d'apprendre d'abord comment la puissance de Dieu opère en nous, versets 1 à 10, puis les voies de Dieu envers nous, versets 11 à 22, pour la formation de l'Assemblée dans le temps afin d'accomplir ses conseils pour nous. Versets 1 à 10, l'œuvre de Dieu dans le croyant. Versets 1 à 3, citation de l'Écriture. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Fin de citation. Le chapitre commence par présenter un tableau solennel de la condition et de la position dans lesquelles l'homme était tombé sous l'ancienne création. Les deux premiers versets montrent la condition du monde des gentils. Le verset 3 introduit les Juifs dans ce tableau solennel. « Nous, Juifs, dit l'apôtre, étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. » Pour Dieu, juifs et gentils sont vus comme morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, mais comme vivants, quant au train d'un monde mauvais, sous la puissance du diable, le chef de l'autorité de l'air. Ainsi, l'homme est désobéissant envers Dieu, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et, par nature, il est sous le jugement de Dieu. Le juif, bien qu'étant dans une position de privilège extérieur, a prouvé par ses convoitises qu'il avait une nature déchue et qu'il était sur le même terrain que le gentil. Tant le juif que le gentil sont morts pour Dieu. Dans l'Épître aux Romains, nous sommes vus comme étant sous une sentence de mort en raison de ce que nous avons fait, de nos péchés. Ici, nous sommes considérés comme déjà morts aux yeux de Dieu, en raison de ce que nous sommes, en tant qu'ayant une nature déchue. Cette condition de mort n'est toutefois pas une condition d'irresponsabilité, car l'apôtre décrit l'homme comme ayant marché, comme ayant conversé et comme accomplissant ses convoitises. C'est aux yeux de Dieu que l'homme est mort. Mais en ce qui concerne les influences du monde, de la chair et du diable, il est bien vivant. De plus, le diable est devenu le maître de l'homme par sa désobéissance envers Dieu, et la nature déchue que nous avons est le résultat de cette désobéissance. Nous sommes fils de la désobéissance. Verset 4. Citation de l'Écriture. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Fin de citation. Si le monde entier est mort aux yeux de Dieu, l'homme n'a aucune possibilité de se sortir lui-même d'une telle condition. Un mort ne peut rien faire quant à celui aux yeux duquel il est mort. Toute bénédiction pour un mort doit dépendre entièrement de Dieu. Cela ouvre le chemin aux activités d'amour de Dieu. La vérité que l'apôtre présente ici n'est pas tant notre entrée dans ces choses d'une façon expérimentale que la manière dont Dieu opère, selon son propre amour, pour la satisfaction de lui-même. Dans les trois premiers versets, nous voyons l'homme agissant selon sa nature déchue, ce qu'il place sous le jugement. Dans les versets suivants, nous voyons, dans un contraste absolu, Dieu agir selon sa nature, introduisant l'homme dans la bénédiction. Lorsque l'homme agit selon sa propre nature, il agit sans s'occuper de Dieu, d'après les motifs produits par la convoitise de son propre cœur. Lorsque Dieu agit selon sa nature, il agit sans s'occuper de l'homme et d'après les motifs d'amour de son cœur. L'amour de Dieu opère en nous alors que nous étions morts dans nos fautes. Non pas lorsque nous avons commencé à devenir conscients de notre misère, ni lorsque nous avons répondu à cet amour. Quatre caractères de Dieu sont placés devant nous. L'amour, la grâce, la miséricorde et la bonté, dans les versets 4 à 7. L'amour est la nature de Dieu, le ressort de toutes ses actions et la source de toutes nos bénédictions. Si Dieu agit selon l'amour de son cœur, la bénédiction qui en résulte ne peut être mesurée que par son amour. La question alors n'est pas quelle mesure de bénédiction va répondre à nos besoins, mais quelle est l'étendue de bénédiction qui va satisfaire l'amour de Dieu. La grâce est l'amour en activité, envers des objets indignes, et elle s'adresse à tous. La miséricorde est manifestée aux pécheurs individuellement. La bonté est l'octroi des bénédictions aux croyants. Dieu agit à cause de son grand amour, non pas en aucune manière à cause de ce que nous sommes. Qui peut mesurer son grand amour, et qui peut mesurer la bénédiction qui est selon cet amour? Versets 5 à 7. Citation de l'Écriture. Alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ, vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Fin de citation. Verset 5. Cet amour s'exprime d'abord envers nous dans les activités de la grâce qui nous vivifie en tant qu'individus avec Christ. Si nous sommes morts, il ne peut y avoir aucun mouvement de notre part vers Dieu. Le premier mouvement doit venir de Dieu. Une vie nouvelle nous a été impartie, mais c'est une vie en association avec Christ. C'est une vie qui, en fait, est la vie de celui avec qui nous sommes vivifiés. Aussi, la condition que nous avons reçue par grâce est l'opposé exact de la condition que nous avions par nature. Nous étions morts aux yeux de Dieu avec le monde par nature. Nous sommes maintenant vivants à Dieu avec Christ par grâce. Verset 6. Mais ce n'est pas seulement notre condition qui est changée. Notre position est aussi changée. La vivification est la communication de la vie. La résurrection introduit celui qui est vivifié dans la position des vivants. Cette position est présentée en Christ. Les croyants d'entre les Juifs et d'entre les gentils sont ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes dans le Christ. Nous sommes vivifiés avec lui, mais nous sommes ressuscités et assis en lui. Actuellement, nous ne sommes pas encore ressuscités et assis dans les lieux célestes. Toutefois, nous sommes devant Dieu dans cette nouvelle position dans la personne de notre représentant. Nous sommes représentés en Christ. Verset 7. Ayant atteint la hauteur de la position chrétienne, nous apprenons maintenant le propos glorieux que Dieu a en vue en agissant ainsi envers nous en amour. C'est afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Dieu dit, en quelque sorte, « Dans les siècles à venir, je montrerai quel est le fruit de l'œuvre de Christ et quel est le propos de mon cœur. » Il est évident que rien, sinon la condition et la position les plus élevées dans lesquelles un homme peut se trouver, ne saurait répondre à des buts si grands. Lorsque les anges et les principautés verront un pauvre pécheur et l'assemblée tout entière dans la même gloire que le Fils de Dieu, ils comprendront, dans la mesure où cela leur sera possible, les immenses richesses de la grâce qui les a placés là. Versets 8 à 10. Citation de l'Écriture. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Fin de citation. Versets 8 et 9. Tout est opéré par la grâce de Dieu, et toute bénédiction dont nous jouissons est le don de Dieu. La foi même par laquelle nous recevons le salut est le don de Dieu. Les œuvres de l'homme n'ont aucun rôle pour assurer cette bénédiction. Tout est de Dieu, et par conséquent, il n'y a pas de place pour la vanterie de l'homme. Verset 10. Cela conduit à une autre vérité. Non seulement nos œuvres sont exclues, car Dieu a tout accompli, mais nous sommes aussi son ouvrage, et, comme tel, nous faisons partie d'une nouvelle création dans le Christ Jésus. Si toutefois les œuvres de loi sont exclues, comme moyen de salut, nous ne devons pas en déduire que les œuvres n'ont point de place dans la vie chrétienne. Il y a en effet des œuvres propres à la position de bénédiction dans laquelle nous sommes introduits, que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Ces œuvres nous seront présentées dans la dernière partie de l'Épître, où nous sommes exhortés à marcher d'une manière digne de l'appel et à marcher dans l'amour, à marcher comme des enfants de lumière et à marcher soigneusement. Les bonnes œuvres dont parle ce verset ne se limitent pas à faire une bonne œuvre, ce que pourrait faire un homme naturel dont la marche est tout sauf bonne. Ici, les croyants sont vus non seulement comme faisant de bonnes œuvres, mais comme marchant en elles. En outre, les bonnes œuvres sont préparées par Dieu et mènent à une marche pieuse. Versets 11 à 22. L'œuvre de Dieu envers les croyants. Le grand thème du chapitre 2 est la formation de l'assemblée dans le temps, en vue des conseils de Dieu pour l'éternité. La première partie du chapitre nous révèle l'œuvre de Dieu en nous individuellement, soit juif, soit gentil. La seconde partie présente l'œuvre de Dieu à l'égard des croyants d'entre les juifs et d'entre les gentils, en vue de les unir en un seul corps, et une maison pour être une habitation de Dieu. Versets 11 et 12. Citation de l'Écriture. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelés incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision faite de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Fin de citation. Avant d'exposer la position actuelle des croyants en Christ, l'apôtre met en contraste l'ancienne position des gentils dans la chair avec leur nouvelle position. L'assemblée est loin d'être l'ensemble de tous les croyants depuis la création du monde. Au contraire, dans les temps passés, le temps précédant la croix, il existait une distinction établie de Dieu entre les juifs et les gentils, laquelle, tant qu'elle subsistait, rendait impossible l'existence de l'assemblée. L'apôtre rappelle aux croyants d'entre les nations qu'en ce temps-là, il existait des distinctions très marquées entre les juifs et les gentils. Dans les voies de Dieu sur la terre, les juifs jouissaient en tant que nation d'une position comportant des privilèges extérieurs à laquelle les gentils étaient tout à fait étrangers. Israël formait un peuple terrestre avec des promesses terrestres et des espérances terrestres et avait des relations extérieures avec Dieu. Leur culte religieux, leur organisation politique, leurs relations sociales, de l'acte d'adoration le plus élevé au plus petit détail de la vie, étaient réglés par les ordonnances de Dieu. C'était un immense privilège auquel les gentils, comme tels, n'avaient point de part. Non pas que les juifs aient été meilleurs que les gentils, car aux yeux de Dieu, la grande masse des juifs était aussi mauvais que les gentils, et certains même pires. D'autre part, il y avait des hommes d'entre les gentils, tels Job, qui étaient véritablement convertis. Toutefois, dans ses voies sur la terre, Dieu sépara Israël des gentils et leur donna une position spéciale de privilège, car même s'ils étaient inconvertis, et c'était le cas de la masse, c'était un immense privilège d'avoir toutes leurs affaires réglées selon la sagesse parfaite de Dieu. Les nations n'avaient pas une telle position dans le monde. Elles n'étaient pas reconnues publiquement par Dieu et n'avaient pas leurs affaires réglées par des ordonnances divines. En fait, les ordonnances mêmes qui réglaient la vie des Juifs maintenaient une séparation absolue entre Juifs et gentils. Les Juifs, par conséquent, avaient une place de proximité extérieure de Dieu, tandis que les nations étaient extérieurement loin. Mais Israël a complètement manqué de répondre à ces privilèges, se détournant de l'Éternel vers les idoles. Ils méprisèrent totalement les commandements et les ordonnances de Dieu qui leur conféraient leur position unique. Ils lapidèrent les prophètes par lesquels Dieu cherchait à parler à leur conscience. Ils crucifièrent leur propre Messie, qui était venu au milieu d'eux dans la grâce et l'humilité. Et ils résistèrent à l'Esprit Saint, qui rendait témoignage à un Christ ressuscité et glorifié. En conséquence, ils ont perdu, pour le temps actuel, leur position spéciale de privilège sur la terre et ont été dispersés parmi les nations. Verset 13. Citation de l'Écriture. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Fin de citation. La mise de côté d'Israël prépare le chemin au grand changement dans les voies de Dieu sur la terre. Le bref rappel du passé donné par l'Esprit de Dieu dans les versets 11 et 12 rend, par contraste, la position des croyants dans le présent d'autant plus frappante. À la suite du rejet d'Israël, Dieu, poursuivant ses voies, a amené à la lumière l'assemblée et a ainsi établi une sphère de bénédiction entièrement nouvelle, tout à fait en dehors des cercles des Juifs et des nations. Cette position nouvelle des croyants ne les voit plus comme étant dans la chair, mais en Christ. Ainsi, l'apôtre commence à parler de cette position nouvelle par les mots « mais maintenant dans le Christ Jésus » et se met à tracer le contraste avec l'ancienne position dans la chair. En relation avec la chair, le gentil était extérieurement loin de Dieu, et le juif, bien que proche extérieurement, était moralement aussi éloigné que le gentil. Parlant aux juifs, le Seigneur doit dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. L'apôtre entreprend ensuite de montrer comment Dieu a opéré pour former l'assemblée. D'abord, les croyants ont été approchés par le sang du Christ, les gentils étant amenés de la position d'éloignement dans laquelle le péché les avait mis, dans une position de proximité en Christ. Ce n'est pas une simple proximité extérieure, due à des ordonnances et à des cérémonies, mais une proximité vitale qui est vue en Christ lui-même, ressuscité d'entre les morts, et paraissant devant la face de Dieu pour nous. Aussi, il nous est dit, « Dans le Christ Jésus, vous avez été approchés par le sang du Christ. » Nos péchés nous maintenaient éloignés. Le sang précieux de Christ nous lave de nos péchés et nous approche. Le sang de Christ fait connaître l'énormité du péché qui exigeait un tel prix pour être ôté. Il proclame la sainteté de Dieu, qui ne pouvait être satisfaite par un prix moindre, et révèle l'amour qui pouvait payer ce prix. Ce n'est pas seulement que le croyant peut s'approcher de Dieu, mais qu'en Christ, il a été approché. Versets 14 à 16. Citation de l'Écriture. Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps, à Dieu, par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Fin de citation. Verset 14. Deuxièmement, les croyants d'entre les Juifs et d'entre les gentils sont faits un. Personne ne peut surestimer l'importance d'avoir été approché par le sang, mais, pour la formation de l'assemblée, il faut davantage. L'assemblée n'est pas simplement constituée d'un nombre de croyants qui ont été approchés, car cela serait vrai des saints de tous les temps, rachetés par le sang de Christ. Elle est formée de croyants d'entre les Juifs et d'entre les nations. Il en a fait un. Cela, Christ l'a accompli par sa mort. Dans un double sens, lui est notre paix. Il est notre paix entre Dieu et le croyant, et il est notre paix entre croyants juifs et gentils. Verset 15. Par sa mort, Christ a aboli la loi des commandements, qui était la cause de la distance entre Dieu et l'homme et entre juifs et nations. La loi, tout en promettant la vie à ceux qui la gardaient, condamnait ceux qui la transgressaient. Vu que tous ont transgressé la loi, elle condamnait inévitablement tous ceux qui étaient sous elle et maintenait ainsi les hommes loin de Dieu. De plus, elle élevait une barrière ferme, un mur mitoyen de clôture, entre juifs et nations. Il ne pouvait pas y avoir de paix, ni entre Dieu et les hommes, ni entre les juifs et les nations, tant que cette barrière existait. À la croix, la condamnation de la loi transgressée a été portée, et ainsi l'inimitié entre les hommes et Dieu, et entre les juifs et les nations, a été ôtée. La paix qui en résulte est présentée en Christ. Lui est notre paix. Nous regardons en arrière, à la croix, et nous voyons que tout ce qui était entre Dieu et notre âme, le péché, les péchés, la malédiction d'une loi transgressée et le jugement, a été entre Dieu et Christ, notre substitut. Nous levons les yeux et voyons Christ dans la gloire avec rien entre Dieu et Christ, sinon la paix éternelle qui a été faite et, par conséquent, rien entre Dieu et le croyant. Notre paix est visible en Christ, qui est notre paix. De plus, Christ représente les croyants tant d'entre les Juifs que d'entre les nations. Il est, par conséquent, notre paix entre nous. Nous sommes faits un. À la croix, Christ a entièrement aboli la loi des ordonnances comme moyen de s'approcher de Dieu et a ouvert une nouvelle voie d'accès par son sang. Le Juif qui s'approche de Dieu, sur la base du sang, en a fini avec les ordonnances juives. Le gentil est amené de sa position d'éloignement de Dieu, le Juif est écarté de sa proximité dispensationnelle, et les deux sont faits un dans la jouissance d'une bénédiction commune devant Dieu que ni l'un ni l'autre n'ont jamais possédée auparavant. Les croyants d'entre les gentils ne sont pas élevés au niveau des privilèges juifs, et les juifs ne sont pas dégradés au niveau des gentils. Tous les deux sont introduits sur un terrain entièrement nouveau, sur un plan infiniment plus élevé. Troisièmement, les croyants d'entre les juifs et d'entre les nations sont créés pour être un seul homme nouveau. Nous avons déjà vu que des deux, il en a fait un, mais cela n'exprime pas la vérité complète de l'assemblée. Si l'apôtre s'était arrêté là, nous aurions certes vu que les croyants ont été approchés par le sang et fait un, toute inimitié ayant été abolie, mais nous aurions pu rester avec la pensée que nous avons été constitués un groupe dans une heureuse unité. Cela est vrai et béni, mais c'est loin d'être la pleine vérité quant à l'assemblée. Aussi l'apôtre continue et nous dit non seulement que nous avons été approchés et fait un, mais que nous sommes faits un seul homme nouveau. L'expression « homme nouveau » parle d'une nouvelle sorte d'homme caractérisée par la beauté et les grâces célestes de Christ. Aucun chrétien ne peut présenter à lui seul les grâces de Christ. Il faut l'assemblée entière pour montrer l'homme nouveau. Verset 16. Quatrièmement, il s'y ajoute la vérité que les croyants sont constitués en un seul corps. Les croyants, d'entre les Juifs et les nations, ne sont pas seulement unis pour présenter les grâces de l'homme nouveau, Christ caractéristiquement dans toutes ses gloires morales, mais ils sont aussi formés en un seul corps. C'est plus qu'un groupe de personnes dans l'unité, c'est un groupe de personnes dans l'union. Elles sont unies l'une à l'autre par l'esprit afin d'être un corps sur la terre pour présenter l'homme nouveau. Ainsi, non seulement les croyants d'entre les Juifs et d'entre les nations ont été réconciliés entre eux, mais, en tant que formés en un seul corps, ils sont réconciliés à Dieu. Il ne serait pas en accord avec le cœur de Dieu que les nations soient éloignées, ni que les Juifs soient extérieurement prêts, mais Dieu peut se reposer avec délice dans la création des croyants d'entre les Juifs et d'entre les nations en un seul corps par la croix, qui, non seulement a ôté toute cause d'inimitié entre les croyants juifs et gentils, mais aussi toute inimitié envers Dieu. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Et il est venu, et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul esprit. Fin de citation. Verset 17. Toute cette vérité bénie nous a été apportée par la bonne nouvelle de la paix annoncée aux nations qui étaient loin, et aux Juifs qui, dispensationnellement, étaient prêts. Nous pouvons comprendre pourquoi l'annonce de la bonne nouvelle est introduite à ce point dans un passage qui parle de la formation de l'assemblée. L'apôtre vient de parler de la croix, car sans la croix il ne saurait y avoir de prédication, et sans prédication il ne pourrait y avoir d'assemblée. Christ est considéré comme étant le prédicateur, bien que l'évangile qu'il annonce soit proclamé par le moyen d'autres. Verset 18. Il s'y ajoute la vérité bénie que, par un seul esprit, nous avons les uns et les autres, juifs et gentils, accès auprès du Père. La distance n'est pas seulement ôtée du côté de Dieu, elle est aussi enlevée de notre côté. Par l'œuvre de Christ sur la croix, Dieu peut s'approcher de nous, annonçant la paix, et par l'œuvre de l'Esprit en nous, nous pouvons nous approcher du Père. La croix nous donne le droit de nous approcher, l'Esprit nous rend capable de faire usage de notre droit et de nous approcher pratiquement du Père. Si l'accès est par l'Esprit, il n'y a alors évidemment pas de place pour la chair. L'Esprit exclut la chair sous toutes ses formes. Ce n'est pas par des édifices, un rituel, des orgues, des chœurs ou par l'intermédiaire d'une classe spéciale d'hommes que nous obtenons l'accès auprès du Père. C'est par l'Esprit, oui, par un seul Esprit. Et ainsi, dans la présence du Père, tout est en harmonie. Nous trouvons donc, dans ce magnifique passage, d'abord les deux classes dont l'assemblée est composée, ceux qui autrefois étaient extérieurement près et ceux qui autrefois étaient loin. En second lieu, nous voyons que Dieu a approché de lui ces deux classes de croyants. Des deux, il a fait un seul homme nouveau, et il les a réconciliés, toutes les deux, en un seul corps. Enfin, nous apprenons comment Dieu a accompli cette grande œuvre, par le sang de Christ, par la croix, par la prédication et par l'Esprit. Versets 19 à 22. Citation de l'Écriture. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Fin de citation. Jusqu'ici, nous avons vu l'Assemblée comme le corps de Christ, mais dans les voies de Dieu sur la terre, elle est considérée sous d'autres aspects, dont deux nous sont présentés dans les derniers versets de ce chapitre. D'abord, l'Assemblée est vue comme croissant pour être un temple saint dans le Seigneur, ensuite, comme une habitation de Dieu. Sous le premier de ces deux aspects, l'Assemblée est comparée à un édifice en construction qui croît pour être un temple saint dans le Seigneur. Les apôtres et prophètes forment le fondement, Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Tout au long de la dispensation chrétienne, les croyants sont ajoutés, pierre par pierre, jusqu'à ce que le dernier croyant soit amené et que l'édifice complet soit manifesté en gloire. C'est l'édifice dont le Seigneur dit en Matthieu 16 « Je bâtirai mon assemblée » et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Christ est celui qui bâtit, non pas l'homme. Aussi tout est parfait, et seules des pierres vivantes font partie de ce saint édifice. Pierre nous en donne la signification spirituelle lorsqu'il dit que les pierres vivantes sont édifiées une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu et pour annoncer les vertus de Dieu. 1 Pierre 2, versets 5 et 9. En Apocalypse 21, Jean voit en vision l'édifice achevé descendant du ciel, d'auprès de Dieu, resplendissant de la gloire de Dieu. Alors, en effet, de ce glorieux édifice, des sacrifices de louanges continuels s'élèveront à Dieu et un témoignage parfait des gloires de Dieu sera rendu à l'homme. Puis l'apôtre Paul, employant toujours l'image d'un édifice, présente un autre aspect de l'assemblée, au verset 22. Il a d'abord considéré les saints comme étant édifiés et croissants pour être un temple. Maintenant, il les voit comme formant une maison déjà complète pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Tous les croyants sur la terre, à n'importe quel moment donné, sont considérés comme étant l'habitation de Dieu. Les croyants d'entre les Juifs et d'entre les nations sont édifiés ensemble pour être cette habitation. La demeure de Dieu est caractérisée par la lumière et l'amour. Aussi, lorsque l'apôtre en vient à la partie pratique de l'épître, il nous exhorte à marcher dans l'amour et à marcher comme des enfants de lumière. Chapitre 5, versets 2 et 8. La maison de Dieu est ainsi un lieu de bénédiction et de témoignage, un lieu où les saints sont bénis de la faveur et de l'amour de Dieu, et étant bénis ainsi, ils deviennent un témoignage au monde qui les entoure. Dans les Éphésiens, l'habitation de Dieu est présentée selon la pensée de Dieu, et par conséquent n'y est considéré que ce qui est réel. D'autres passages nous montreront, hélas, comment, entre les mains des hommes, l'habitation a été corrompue, jusqu'à ce qu'enfin nous lisions que le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Nous avons ainsi, dans ce chapitre, une présentation de l'assemblée sous trois aspects. D'abord, l'assemblée est considérée comme le corps de Christ, composé de croyants d'entre les Juifs et d'entre les nations, unis à Christ en gloire, formant ainsi un homme nouveau pour la manifestation de tout ce que Christ est comme homme ressuscité, chef sur toute chose. Souvenons-nous que l'assemblée n'est pas uniquement un seul corps, mais qu'elle est son corps, comme nous le lisons. L'assemblée qui est son corps. Comme son corps, l'assemblée est sa plénitude, remplie de tout ce qu'il est, afin d'exprimer tout ce qu'il est. L'assemblée, son corps, doit être l'expression de sa pensée, tout comme nos corps donnent expression à ce qui est dans nos pensées. Puis l'assemblée est présentée comme croissant pour être un temple composé de tous les saints de toute la période chrétienne, un temple où les sacrifices de louange montent à Dieu et où les gloires de Dieu sont manifestées aux hommes. Enfin, l'assemblée est vue comme un édifice complet sur la terre, composé de tous les saints à un moment donné quelconque, formant l'habitation de Dieu pour la bénédiction des siens et en témoignage au monde.